tous, vous êtes bien dans les chroniques du possible. Ici la voix du changement, les chroniques du possible, l'émission qui fait du bien à la tête sans te la casser. Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Uh-huh.
Bonjour à tous. Suite au désistement temporaire d'agent Orange qui recherche temporairement du boulot dans le travail temporaire, je prends les relais des chroniques de possible pour une émission qui se veut philosophique. Je dis bien qui se veut, n'étant 1. pas du tout philosophe et 2. encore moins chroniqueur radio. Mais comme disait Michel Serrault à Hugo Toniazzi dans La Cage aux Folles, qui ne tente rien n'a rien, alors je me jette à l'eau. Donc quel philosophe pourrait coller avec les chroniques du possible ? Épicure, me dis-je en parcourant Wikipédia et mes vagues souvenirs de cours de philo d'il y a 30 ans. Mais qu'est-ce que l'épicure et l'épicurisme, me demanderiez-vous, cher auditeur qui se demande quand l'émission va vraiment commencer parce que là il nous gonfle avec son préambule long comme un film de Godard un dimanche de pluie. Et je vous le prouve.
Voilà, ça envoyait où la peur est tout de même la fille de Dieu. Rachetez la nuit devant le dessin. Elle n'est pas belle à voir, non. Tantôt rayée, tantôt maudite, renoncée par tous. Et cependant, la vie trompe pas. Elle est au chevet de chaque agonie. Elle intercède pour l'homme.
Pardon ?
Pardon.
Personne ne dit l'exception.
Répétez encore.
La règle, personne
pardon,
ne dit.
Pardon, je vous demande pardon.
L'exception, ça ne se dit pas. Cela ne se dit pas. Cela ne se dit pas.
Oh là 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 là, les caméras fatales, le boulet !
Je vous avais prévenu, hein ? Mais revenons à nos brebis. Qu'est-ce que l'épicure et l'épicurisme, me demandiez-vous, cher auditeur, quitte à vous répéter. Bien, comme disait mon père, jeune retraité de 40 ans et pas la moitié d'un con, à ma mère infirmière et sa moitié également, tu fais l'épicure et moi je fais l'épicure. Qu'est-ce à dire ? On a tendance à penser qu'un épicurien correspond à un bon vivant, mais en fait c'est pas tout à fait ça. Écoutez bien, cher auditeur, qui se demande quand ce suspense insupportable va se terminer, parce que c'est pas le tout, mais j'ai les grosses têtes sur RTL qui vont commencer, je voudrais pas rater les dernières vannes grasses de Ruquier, comme par exemple la fois où, Dieu me flagelle, j'ai tant ri, il susurrait à Michel Serrault dans La Cage aux Folles 2, et si ma tante en avait, je l'appellerais mon oncle. Mais je m'égare, écoutons plutôt un extrait de ce fameux banquet philosophique dont le grand sage Kersauzon tenait le haut du pavé.
Question de monsieur Avranches. Qui est l'auteur de cette maxime ? Aimez-vous les uns sur les autres ?
Frédéric Dard.
Non.
Pierre Dard.
Il ne fait pas partie de nos comiques habituels.
Le général de Gaulle.
Mais...
oh là 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 là, les caméras fatales, le boulet !
C'est gras mais c'est bon comme le cochon, mais je me disperse. Donc, le bonheur chez Épicure, ça part de quatre idées fortes appelées tétrapharmakos. C'est comme les quatre saisons de Vivaldi, mais en plus grec. Je vous explique. Tétra 4, jusque-là vous suivez, et de Nikos Pharmakos, présentateur télé de l'époque. Les tétrapharmakos sont censés nous guérir les maux de l'âme. Et pour prouver mon propos, encore une fois, voici un extrait rare du chant de Nikos en mode lydien, dont la partition était retrouvée dans la grotte de Lascaux lors de la bataille d'Alésia.
Αξύπνα μικρό μου κι άκουσε κάποιο μινωρέ της αυγής για σένα
Mais revenons à nos moutons, les quatre idées fortes donc. La première, ne craignons pas les dieux. Épicure nous dit que leurs états de béatitude font qu'ils sont complètement indifférents à nous. Et d'autre part, étant immortels, ils n'ont strictement rien à envier à l'homme. Ça les intéresse pas, rien à carrer en somme, donc pourquoi les craindre ? Réécoutons donc ce que les Gaulois avaient à nous dire à ce propos.
Osiris et Parapis, regarde-moi.
Comment vous ça le coup des yeux ?
Silence, concentre-toi.
Par Osiris et Parapis, regarde-moi bien. Par Osiris et Parapis, tu es maintenant un...
Un quoi au juste ? Un sanglier. Vous aimez bien le sanglier, vous les Gaulois. Allez, on recommence.
Par Osiris et Parapis, regarde-moi bien.
Georges Marchais et Dieu dans tout cela.
Ah, Dieu.
La deuxième idée. Ne craignez pas la mort. Son argument est limpide de logique. Ça a à voir avec des prétendantes à des concours de beauté qui finissent une blanquette et une chanteuse qui rigole. Je cite de mémoire mon grec ancien étant un peu rouillé. Si demis rou sauce, nana mouskou ri. Je traduis en bas français. Ainsi, le plus effroyable des mots, la mort n'est rien pour nous, étant donné précisément que quand nous sommes vivants, la mort n'est pas présente, et que quand la mort est présente, alors nous ne sommes pas. C'est pour ainsi dire la mort de la mort. De ce fait, l'homme ne doit plus craindre la mort comme il l'a toujours fait, mais ne pas y penser puisqu'il ne pourra la côtoyer. Le troisième principe, la souffrance est supportable. En effet, si elle n'a pas raison de moi, alors elle est supportable, et si elle me tue, alors le problème ne se pose plus. Là, j'avoue que je suis un peu perplexe. Hein. Revoyez donc Massacre à la tronçonneuse. Stop.
This is the movie that is just as real.
Enfin, le dernier principe. On peut atteindre le bonheur et supprimer la douleur. Et pour ce faire, il faut calculer ses plaisirs et différencier ses désirs. Et d'abord, une petite pause. Hein. Écoutons donc le grand sage Ricardos Gotenarazis en plein calcul.
Qu'est-ce que c'est ?
Waouh !
Qu'est-ce qu'il y a ?
Qui ?
Que ?
D'où elle sort cette nana ?
Agaga !
Agaga !
Agaga !
Agaga !
Agaga !
Aga !
Atatou !
Qui va là ?
D'où elle vient ? Où elle va ?
Mais qu'est-ce que c'est cette nana ?
Agaga !
Agaga !
Agaga !
Merci, sage Ricardos, j'en ai la chair de poule. Épicure nous distingue donc trois types de désirs. Premièrement, les désirs artificiels, célébrité, luxure, richesse excessive, dont il faut se tenir éloigné car ils provoquent de la souffrance. En gros, évitez de participer aux anges de la célébrité de Koh-Lanta à Marseille en Thaïlande, surtout si vous avez des mycoses. Un exemple ci-après de ce qu'Épicure n'aurait certainement pas cautionné.
Pourquoi on a une moitié de lune comme ça ? Mais le soleil il est là-bas, mais la lune elle est là-bas, je comprends pas, attends.
Ah ouais.
Donc en fait, on est dehors avec Micha, et à un moment, je regarde la lune, et je me dis, quand il va faire nuit en France aussi, est-ce qu'il voit la même lune que nous ou pas ?
Et tu savais qu'on avait la même lune pour tout le monde ou pas ?
Oui, je pense, oui.
Ça me paraît. Moi, je pensais qu'il y en avait moins de deux, parce que t'imagines, si en France, ils ont la même lune que nous, mais tout, elle est là. Non, mais sérieusement, si nous, on a la lune là,
ouais.
Comment en France ?
Deuxièmement, les désirs naturels conformes à notre nature. Le désir sexuel, par exemple, l'art, la science. Ils peuvent ajouter au plaisir, mais ne sont pas nécessaires. Écoutons donc un exemple idoine d'homme qui suit ses désirs naturels et conformes.
Vous avez raison. Ah, et puis il m'a coupé dans mon élan. J'allais vous montrer mon tableau et maintenant j'ai le trac. Je ne sais pas s'il vous plaira.
Pierre, c'est l'intention qui compte.
Bon, c'est-à-dire, bien sûr, il faut le voir chez soi, hein.
Oui. Non, je ne peux pas dire que je n'aime pas Pierre, mais enfin, non, le village est gentil, là, mais c'est l'intervention de cette grosse femme, c'est un petit... Enfin, c'est... ça va très loin.
Oui, mais si, c'est là que je me rends compte que, malheureusement... Je vous ai beaucoup moins bien réussi que le porc.
Enfin, les désirs naturels et nécessaires, la faim, la soif par exemple, mais auxquels il rajoute aussi la philosophie et l'amitié. Une amitié restreinte mais véritable est importante, et ça je suis bien d'accord, même si mes opinions sont passablement peu intéressantes, je vous le dis quand même, et si ça vous en touche une sans bouger l'autre, vous pouvez toujours écouter Rire et Chansons ou aller vous faire voir chez les Grecs. Et pour étayer mes propos, voici donc un extrait d'un grand notre mamamouchi de l'épicurisme, quoique freudien par sa mère, mais ça c'est pas de sa faute, vous l'aurez reconnu.
Big bisou, big bisou. Approchez, approchez, on va danser le big bisou. Big bisou en anglais ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai.
Merci sage Carlos. Seuls ces désirs naturels et nécessaires doivent donc être satisfaits pour atteindre la plénitude. Mais la satisfaction de ses désirs doit être dans la modération, afin de ne pas produire un manque. On parle pas d'orgie de foie gras et de sauterne, mais plutôt d'eau et de pain. Ou comme l'a résumé si bien le grand gourou Jean Carmet lors de ses entretiens avec Gérard Depardieu lors de la fête des vendanges, un verre ça va, trois verres bonjour les dégâts. Mais jugeons plutôt sur pièce.
Ça c'est superbe, ça te plaît ? Sans faute.
Ouais.
C'est superbe, une grande année, c'est peut-être même un petit peu jeune, c'est un 82, c'est, dans 3 ou 4 ans ça aura pris son ampleur totale.
Mais tu en verras, ça n'en sera pas.
Oui, mais il y en aura, on sera encore là, tu penses bien, oui, parce que j'espère bien même être là plus tard, parce que le 89 et le 90 sont splendides, alors il va falloir les boire dans 10 ans. Le vin, c'est une question d'émotion de l'instant. Comment dire, il y a des vins, je boirais ça par exemple le matin sur une bonne tartine de rillettes ou sur un casse-croûte. Oui,
c'est un vin du matin, ça.
Oui, non, ça c'est pas. Hein, oui, ben, je boirais un petit vin, un Chenin de la Loire, un petit vin amusant, frais, un vin qui réveille, qui respire les senteurs qui sentent un peu la mousse, qui sentent toutes les humidités du matin. Et puis après, bon, ben, dans la journée, ça c'est un vin à boire, bon, peut-être à table bien sûr, mais peut-être à boire avec un copain comme ça, dans un après-midi de tête à tête où on va dire des choses intelligentes.
On va faire le monde.
Oui, ouais. Ou des choses intelligentes ou complètement con, ça fait rien. Mais enfin, qu'on va boire comme ça,
un petit peu, le vin est bon.
Les yeux dans les yeux.
Ton copain, ton ami Depardieu,
oui.
Nous on le connaît comme acteur, mais comme viticulteur, il se débrouille ?
Ah, mais c'est pas, il se débrouille pas, c'est devenu un grand viticulteur, il a.
Le calcul des désirs consiste donc à savoir résister à un plaisir afin de prévenir un plus grand mal qui pourrait survenir plus tard. Le sage est capable de suivre cette direction et il évite ainsi le manque qui viendrait entraver sa vie. Le but du sage et du philosophe est d'atteindre l'ataraxie, c'est-à-dire le repos de l'âme et l'aponie qui concerne le corps. Je cite encore. Quand nous disons que le plaisir est notre but, nous n'entendons pas par là le plaisir des débauchés, ni ceux qui se rattachent à la jouissance matérielle. Ainsi que le disent ceux qui ignorent notre doctrine ou qui sont en désaccord avec elle, ou qui l'interprètent dans un mauvais sens. Le plaisir que nous avons en vue est caractérisé par l'absence de souffrance corporelle et de troubles de l'âme. Prenons un exemple, au hasard, DSK. Bon, DSK aurait pu faire un peu plus preuve d'épicurisme en se contentant de son poste au FMI, des Sinclair de sa Sinclair, mais il a préféré se mettre dans une saumure noire, comme dirait Dédé, ne pouvant contrôler ses pulsions les plus inavouables auprès des soubrettes d'hôtels de luxe et autres travailleuses de la nuit roumaine que même les camionneurs belges y s'y aventurent pas, comme dirait Renault.
Avril 77, dans la banlieue qui fait nuit, la petite route est déserte. Gérard Lambert rentre chez lui. Dans le lointain, les mobilettes poussent des cris. Ça y est, j'ai planté le décor, créé le climat de ma chanson. Ça sent la peur, ça pue la mort. J'aime bien cette ambiance, pas vous, ah bon. Voici l'histoire proprement dite. Voici l'intrigue de ma chanson. Gérard Lambert roule très vite. Le vent s'engouffre dans son blouson. Dans le lointain, les bourgeois dorment comme des cons. Lorsque soudain survient le drame, juste à la sortie d'un virage, y a plus d'essence dans la bécane. Gérard Lambert est fou de rage. T'aurais pas dû, Gérard Lambert, aller ce soir-là à Rungis. T'aurais dû rester chez ta mère comme un bon fils. Il met sa mob sur la béquille, s'assied par terre et réfléchit. Dans cette banlieue de bidonville, y a pas une pompe ouverte la nuit. Dans le lointain, y a une sirène qui s'évanouit. Qu'est-ce que je vais faire, bordel de Dieu? Je vais quand même pas rentrer à pied. Plus il s'angoisse, moins ça va mieux. Quand soudain lui vient une idée, je vais siphonner un litre ou deux dans le réservoir de cette bagnole. Et puis après, je lui crève les pneus, comme ça gratuitement, par plaisir. Faut bien que je me défoule un petit peu, je suis énervé. Une fois son forfait accompli, Gérard Lambert va repartir. La mobilette veut rien savoir, c'est le bon Dieu qui l'a puni. T'aurais pas dû, Gérard Lambert, aller ce soir-là à Rungis. T'aurais dû rester chez ta mère comme un bon fils. Alors pendant une demi-heure, dans son moteur, il tripatouille. Il est crevé, il est en sueur, il a du cambouis jusqu'au coude. Dans le lointain, le jour se lève comme d'habitude. À ce moment-là, un mec arrive, un petit loubard aux cheveux blonds, et qui lui dit, comme dans les livres, s'il te plaît, laisse-moi un mouton. Une femme à poil ou un calibre, un cran d'arrêt, une mobilette. Tout ce que tu veux, mon pote, t'es libre, mais dessine-moi quelque chose de chouette. Dans le lointain, il se passe plus rien, du moins il me semble. Alors d'un coup de clé à molette, bien placé entre les deux yeux, Gérard Lambert éclate la tête du petit prince de Milan.
Faut pas gonfler Gérard Lambert quand il répare sa mobilette. C'est la morale de ma chanson. Moi, je la trouve chouette. Pas vous? Ah bon?
Tiens, bah Renaud, qui aurait pu également faire preuve de modération et continuer à nous conter la vie de Gérard Lambert, mais qui préféra se noyer dans la dépression et le 102, comme dirait Gainsbourg. Ou tiens, bien Gainsbourg, et qui enfin bon, vous avez compris. Le fait qu'est-il arrivé à l'épicurisme ? Selon Onfray, il se serait fait laminer par les autres écoles de philosophes plus proches du christianisme. En effet, une théorie qui nous dit qu'il y aurait plusieurs dieux, que le plaisir est la racine de la morale, et que nous sommes que des atomes et qu'il ne faut pas craindre la mort n'est pas compatible avec les préceptes chrétiens. Et des 300 livres qu'aurait écrit Épicure, il reste seulement 3 lettres. Comme les autodafés n'étaient pas possibles, l'Église utilisait la calomnie et dépeint Épicure comme un pourceau, vivant comme un débauché, prostituant des femmes et vivant dans la luxure. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire les lettres à Ménécée ou bien les articles ou bouquins d'Onfray, dont je me suis largement inspiré pour cette chronique. Sinon, le dernier flux glacial est pas mal non plus. Wally Wallu pour cette chronique. J'espère avoir été aussi instructif qu'enrichissant. Et pour finir, un petit morceau de Robert Smith, le chantre épicurien, évidemment. Voilà.
Oh là 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 là, les caléras fatales. Oh là 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 là, les caléras fatales.
You have have to adapt or you'll be out of style. It's always the same, you jump in someone else's train.
J'ai toujours rêvé d'un monde meilleur, où le bonheur serait loi, où les soldats seraient troubadours, où l'anarchie serait comme une fleur qui pousserait dans les rues à la place du chien mort. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Aujourd'hui, j'en ai rien à branler.
Rien à branler? Un yaourt qui change les idées.
Avec mon rien à branler nature, je vous pisse bien profond à l'arrêt.
Rien à branler existe aussi en pro familial.
Connard.
Les chroniques du possible.